Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 30e pour cette 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour François Lieta.
Bonjour.
Perpignanais, vous avez été longtemps, vous avez une carrière d'ailleurs, malgré votre jeune âge, une carrière politique déjà assez longue, puisque vous avez été responsable à l'époque des jeunes pop, si je me souviens. Puis vous avez été président des Républicains, du parti Les Républicains sur les Pyrénées-Orientales. Charge que vous avez abandonnée pour vous consacrer depuis quelques mois à la conquête d'une mairie de la couronne perpignanaise, Saint-Laurent-de-la-Salanque.
Où je vis, donc c'est effectivement logique.
Voilà. Et nous reviendrons bien sûr, François Lieta, dans une troisième partie, sur ces éléments-là. Mais pour le sommaire de ce Radio Barque aujourd'hui, Michel, tu souhaites commencer par, alors c'est un bon début, la déclaration d'amour de Malki à l'agglo
oui.
du Grand Narbonne. Après quoi, c'est le député Perea qui sera sur la sellette par rapport à sa position elle-même, par rapport à la réforme prévue de la fonction publique, une position qui nous surprend un peu.
Qui m'a surpris, en tout cas.
Bon. Et dans une deuxième partie, nous reviendrons sur des promotions, à l'inspection générale. Il faudra expliquer tout ça.
Oui, ce sont des grands corps, j'expliquerai ça, oui.
Pour deux personnalités, une Fabrice Laurent à Perpignan et puis Michel Py à Le Cat. Il faudra expliquer tout ça parce que ça ne va pas parfois sans difficulté, notamment dans la façon dont c'est ressenti par les intéressés.
Oui.
Mais commençons, Michel, par cette, je cite, déclaration d'amour à la gloire. En fait, Bertrand Malki était à ce même micro il y a quelques semaines et il a fini son interview en disant « Je ferai une double campagne », enfin une question qu'on lui avait posée, « Je ferai dorénavant une double campagne municipale et communautaire ».
Oui, oui.
Et c'est parti de là, en fait.
Oui, c'est parti de là. Et alors que j'avais, pendant la dernière campagne des municipales et après, fait observer les politiques candidats en fait, aux municipales avaient tous, de gauche et de droite, zappaient effectivement l'agglo, ce qui était une double faute à la fois politique et administrative, si je puis dire.
Ils n'avaient pas assez anticipé. Bon. Ça semble changer.
Ça change vite, quand même, parce que là, Bertrand Malki, c'est la première. Il fallait quand même oser le faire, en fait. De manière, certes, il l'avait fait ici, mais il fallait aussi le faire de manière beaucoup plus, si je puis dire, ne t'en offusque pas, en fait, Jean-Claude, médiatique, à travers le journal officiel local qui est l'indépendant.
Le journal officiel, je te laisse la responsabilité de ta dénomination.
Non, je veux dire, le journal officiel, en fait, le journal officiel, dans le sens où il n'y a que ce journal qui puisse effectivement informer les Narbonnais de ce qui se passe.
Influent, oui.
Voilà, il n'y a que lui. Je n'ose pas me mettre en compétition. Pour ce qui me concerne avec mon blog, avec le journal, bon bref, et en plus un dimanche, c'est-à-dire que le jour de la messe, un dominical, donc on apprend en lisant le journal L'Indépendant, que Bertrand Malki, captivé, parce que c'est son expression, captivé, c'est-à-dire charmé, séduit,
Celle qu'il a dite à Nicolas Boussu, le journaliste qui a fait l'interview.
Captivé, charmé, séduit, faisait sa déclaration d'amour, et sa demande en mariage, donc clairement, pour convoler en juste noce avec l'agglo. Bon, en termes clairs.
Tu y as vu une union quasi religieuse.
Ah ouais, en termes clairs, moi je suis candidat à la présidence de l'agglo de Narbonne parce qu'elle me captive, parce qu'elle me séduit, parce que je la trouve belle et parce qu'aussi je suis jeune, je suis intelligent, je ne suis pas sans accord intellectuel.
C'est pas lui qui le dit.
Non, ça c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis, mais parce que c'est objectivement vrai, incontestable.
Il faut
reconnaître aux gens les qualités qu'ils ont, quoi. Et que qu'il a de l'ambition, ce qui est en plus c'est tout à fait légitime
aussi,
tout à fait légitime, et puis qu'il ose le dire clairement, alors que d'autres de la même génération, si je puis dire, tout aussi candidat, mais sans le dire, tout en le disant quand même, sous le manteau,
à travers le réseau,
lui le dit clairement. Bon, il dit clairement, alors ce qui suppose quand même quelques conditions à réunir. Un, que la famille, sa famille politique,
bien
si
sûr.
Je puis dire,
pour utiliser
la
métaphore,
sa famille politique surtout, lui donne l'assentiment. Tu peux effectivement te marier avec cette dame, l'agglo, je t'autorise. Bon, premier point, ce qui semble acquis quand même, mine de rien, bon, on verra plus tard, mais je vois pas Didier Mouly dire non, c'est pas lui, c'est moi.
Il semble.
Il semblerait.
Bien, on peut se tromper. D'ailleurs, Didier Mouly, j'espère, sera prochainement lui aussi à ce micro.
Et deuxième condition, ça suppose aussi qu'il y ait une confortable majorité de conseillers communautaires élus, fait à l'occasion de l'élection municipale qui va venir.
D'une part,
à Narbonne, et d'autre part, en fait, dans l'ensemble des villages et villes amies.
C'est ça. Hein,
ce qui est le plus intéressant, donc, dans cette déclaration, indépendamment de cet aspect-là, en fait, très politique et très personnel, c'est que, on reconnaît enfin qu'on ne peut pas dissocier les programmes municipaux qui seront présentés lors des prochaines municipales des programmes concernant le Grand Narbonne, l'agglomération de Narbonne, qui, dans laquelle, hein, les villes en question sont parties prenantes. Mmh. Et a fortiori, quand on est l'adjoint ou le candidat fait à sa réélection avec Didier Mouly, quand on est l'adjoint d'une la ville centre, c'est impensable. Enfin, encore que c'est la première fois qu'on le dit aussi clairement, et c'est tant mieux. C'est tant mieux.
Mais un éclaircissement nécessaire.
Oui, mais la conséquence logique et institutionnelle de tout cela, quand même, hein, c'est quoi? C'est que, ben voilà, maintenant, je vais vous présenter un programme qui va peut-être municipal, qui concerne les ordures ménagères, mais ces ordures ménagères, c'est pas moi qui vais les gérer, c'est moi qui les gérerai au mieux si vous m'élisez effectivement comme conseiller communautaire, oui, et surtout comme président de l'agglo ensuite.
Oui. Bon, non, si c'est dit clairement, ça aura au moins ce mérite là.
Exactement. Donc c'est une avancée de mon point de vue démocratique et qui est consécutive au fait que, malheureusement, cette institution qui est un établissement public de coopération, en fait, intercommunale, UNPCI, quoi, et non pas une collectivité locale, n'est pas comme une collectivité locale classique, en fait, hein, en tout cas pour ses élus, élus au suffrage universel direct, ce qui rendrait effectivement les choses très faciles. Bon,
Beaucoup plus clair, là aussi.
Donc, à l'absence d'un suffrage universel direct pour élire des conseillers communautaires, cette méthode qui consiste à dire aujourd'hui, ben, effectivement, je suis, fait, maire, fait, ou premier adjoint, peu importe, mais je veux être aussi, fait, président de l'agglo, et donc je vais présenter deux programmes, celui de la ville et celui de l'agglo, et donc vous, je suis clair, effectivement, sur ce que je vais faire dans les deux instances, me paraît effectivement de bonne méthode.
Et je souhaiterais
que tous les autres candidats à l'agglo, en fait, et à la présidence de l'agglo, se comportassent de la même manière.
Mais justement, je pense que ça déclare...
Ce dont je doute fort.
On le verra, mais...
Ce dont je doute fort. Alors bon, voilà où on en est.
Il va créer un fait accompli qui va obliger certains peut-être à sortir un peu de leur coquille.
Ah oui, parce que autrement, si cela ne se fait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans la même configuration que précédemment et qu'on va laisser faire des jeux de couloir, en fait, des jeux d'arrière-salle pour élire un président dans des conditions, en fait,
Et on recommence.
Curieuse, hein. Et en tout cas, pas clair du tout, avec des alliances de circonstances, en échange.
On recommencera la guerre de 14 comme on a eu à Narbonne, 2014-2020.
Exactement. Donc, pour éviter tous ces dysfonctionnements dont on a connu les effets, effectivement, sur ce territoire, et à travers le fait qu'on a, bon, la ville centre qui n'est même pas représentée à travers l'exécutif de l'agglo, bon, éviter ce genre de dysfonctionnement qui entraîne des conséquences économiques, fiscales, etc.
Escarmouche continuelle.
Continuelle, bon, et puis des dysfonctionnements de type financier, institutionnel considérable. Bon, voilà. Ça, le mérite de la clarté. C'est le souhait que je forme, en fait, c'est qu'effectivement, eh bien, tous les autres candidats se comportent de la même manière. Les électeurs seront beaucoup mieux informés et beaucoup plus, comment dirais-je, responsables dans leur choix aux élections municipales. Parce que les Narbonnais ne savent peut-être pas, mais quand ils vont élire, en fait, leurs conseillers municipaux, ils vont élire aussi, oui, en même temps, voilà, le même jour,
entendu,
les conseillers communautaires.
C'est là où il faut le rappeler. Alors, un petit mot, le temps passe, mais un petit mot sur le député Perea, qui, en tant que député, il doit voter pour la réforme de la fonction publique que son gouvernement propose.
Oui.
Et il est en léger désaccord.
Alors, il est en léger désaccord. Il dit clairement dans la presse, alors le jour même de la grande journée de mobilisation qui n'a pas quand même mobilisé grand monde, 200 000 faites pour les syndicats, bon, toute la France, contre cette réforme, tous les syndicats étant en vent debout contre, et notamment en mettant en question, en fait, et en refusant un point quasiment central, effectivement, cette réforme, qui est l'ouverture à la fonction publique par le recrutement de contractuels. Pour les postes de direction d'administration centrale, comme pour d'autres fonctions un peu moins importantes, comme par exemple les directeurs généraux des communes de plus de 40 000 habitants, qui pourront être elle aussi recruter dorénavant directement.
C'est ce qui est prévu par le gouvernement.
Et alors, curieusement, il fait une déclaration dans la presse, faite dans à l'Imperia, et je vois des commentaires sur les réseaux sociaux et dans la presse qui se félicitent du fait que à l'Imperia ne vote pas en l'état cette réforme. Ce qu'il propose lui va encore plus loin que la réforme en question d'un point de vue libéral, si j'ose dire, puisque il dit à ceux qui l'applaudissaient parce qu'il était contre sa majorité, en croyant qu'il était contre parce qu'elle allait dans un sens qui confortait ce syndicat. Mais non, il va beaucoup plus loin. Il dit non, moi, mon amendement que je propose et qui a été refusé, hélas, c'est de proposer aussi que le recrutement des directeurs généraux des services des collectivités locales, on abaisse le seuil. Pas 40 000, mais 10 000 habitants. Premier point, une révolution. Et puis, deuxième point, qui était là le plus important, casser, effectivement, dit-il, la tutelle de la fonction publique de l'État sur les autres fonctions publiques, les deux autres, l'hospitalière d'une part, la territoriale d'autre part, en disant... Fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de grille indiciaire unique entre les trois fonctions publiques, comme plus de système indemnitaire commun aux trois fonctions publiques. Ce qui pour les fonctionnaires en place est inacceptable. Et puis d'autre part, serait un frein considérable à la mobilité effectivement entre les différentes fonctions publiques territoriales. Donc un contresens total, arrivant à ce moment précis d'une grande grève, avec des applaudissements de ceux qui soutiennent la grève, qui voyaient dans cette prise de position, et qui applaudissent totalement à contresens.
Voilà. Merci de cette explication et on marque une première pause.